Bonjour, la télé-réalité, les sitcoms américains, les films coupés par la pub, la toute-puissance de l'audience surtout, toutes ces merveilles de la télévision d'aujourd'hui, toutes en France sont issues d'un certain jour de 1987, le jour de la privatisation de TF1, première chaîne française. Et oui, car auparavant, figurez-vous, pour les jeunes abonnés qui nous regardent, TF1 était une chaîne publique. Oui, oui, ça a existé. Alors, cet épisode capital de la privatisation de TF1 est le sujet non pas d'une enquête journalistique, mais d'une pièce de théâtre qui tient aussi beaucoup de l'enquête. On va y revenir dans l'émission. Pièce qui sera jouée un peu partout en France en 2022 et qui s'appelle « Une télévision française ». Alors, avec nous sur ce plateau, Thomas Quillardet, vous êtes le metteur en scène de cette pièce, pour la documentation de laquelle vous avez rencontré un nombre impressionnant de témoins d'époque et rassemblé des informations sur cette pièce qui m'ont personnellement épaté. On en verra des extraits. Benoît Carré, vous incarnez dans cette pièce un journaliste dont je pense qu'on peut dire qu'il concentre toutes les tares et toutes les défauts habituellement prêtés aux journalistes de télévision, à tort ou à raison. Et vous nous raconterez comment vous avez endossé ce rôle de méchant. Laurent Mauduit, vous êtes journaliste, cofondateur de Mediapart et grand spécialiste des privatisations en général et des privatisations de médias en particulier. Un de vos derniers livres s'appelle « Prédation », on y reviendra. Et enfin avec nous, Marie-Laure Augry, alors témoin de
cette période.
Témoin notable de cette période, puisque, dois-je le rappeler, vous étiez co-présentatrice du journal de 13h avec Yves Mourosi et donc vous avez vécu tout ça de l'intérieur. Alors, première question, évidemment, elle est évidente. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir ce sujet, d'abord ancien, sorti de l'actualité, et dont on pouvait penser a priori qui ne se prêtait pas du tout à une mise en scène de théâtre. Pourquoi ?
Oui, c'est moi aussi, des fois, je me pose la question, mais ça s'est un peu passé en entonnoir, c'est-à-dire que dans ma réflexion, je voulais faire une pièce sur les journalistes, et plus particulièrement sur une salle de rédaction, parce qu'il me semblait, je croyais, que c'était un lieu où toutes les humanités se déclenchent et rentrent en conflit ou en passion. Et j'imaginais qu'il y avait là matière à théâtre.
Vous avez vécu dans des salles de rédac ?
Non, pas du tout. Non, j'ai vécu dans les lycées, dans les collèges, avec mes parents profs, rien à voir, a priori. Mais donc j'étais, voilà, et en creusant un petit peu mon sujet sur les journalistes, j'ai un petit peu travaillé plus précisément, et il me semblait que c'était intéressant de travailler sur la télévision, parce qu'elle touche plus de monde, évidemment, que la presse écrite ou la radio. Et puis, après, toujours dans mon entonnoir, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de TF1, qui est une chaîne très populaire, et dont tout le monde connaît, et que tout le monde regarde plus ou moins, on va dire.
Et, de moins en moins,
peut-être, oui.
Enfin, toujours pas mal, quand même.
Et m'est revenu un souvenir de cette privatisation, toujours en cherchant mon sujet, parce que mes parents étaient abonnés à l'événement du jeudi, j'avais 7 ans à l'époque, et je me souviens de cette une, où c'était Télérama, je ne sais plus exactement, mais c'était « Ils vont marcher sur la une ». Et le jeu de mots avec « Ils ont marché sur la lune » de Tintin, etc., m'avait marqué étant petit. Et j'ai commencé à regarder des archives sur cette privatisation. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et j'ai rencontré Laurent, qui m'a dit qu'effectivement, ça avait été un point de bascule assez important dans le monde des médias,
cette privatisation. C'est lui qui a déclenché, il avait le déclencheur.
Ça a confirmé une petite intuition. Et du coup, j'ai décidé de foncer dans l'écriture et de partir. Comme je ne voulais pas faire n'importe quoi, puisque effectivement, je ne connaissais pas du tout ce milieu, j'ai rencontré des gens, dont Marie-Laure.
Voilà. Pour et d'ailleurs, vous m'aviez appelé aussi au monde des repérages. Alors, on va voir tout de suite un premier extrait. Il y a un moment clé, c'est le moment où la rédaction de TF1 apprend que ce sera elle. Puisque, on s'en souvient mal, mais il y a eu toute une période. Alors, ça se passe pendant la première cohabitation, donc sous le gouvernement Chirac, 86-88. Et il y a tout un moment où on sait vaguement, ou on sait précisément qu'une chaîne de télé va être privatisée, on ne sait pas laquelle, la une, la deux. Enfin, personne ne pense d'abord à la une.
Non, c'était le dernier, la deux, après il y avait la trois, puis ouais. La une, c'est sorti du chapeau, enfin pour nous tous, c'est sorti du chapeau. Je crois que la deux, d'ailleurs, s'y était presque habituée à l'idée d'être privatisée.
La loi de privatisation est de septembre 86, donc juste après le début de l'alternance. Et en fait, le choix ne sera fait qu'en février suivant. Donc, il y a 5-6 mois de suspense.
Ouais. Bon, on voit bien ça dans votre pièce, le suspense, et on assiste au moment où la rédaction de TF1 apprend que finalement, ce sera eux, ce sera la Une, par la voix du ministre de la Communication de l'époque, François Léotard, qui l'annonce à l'Assemblée. Toute la rédaction est devant la télé. Premier extrait de la pièce.
Je vous l'annonce donc aujourd'hui. C'est TF1 qui sera privatisé. Le principe du mieux-disant culturel permettra de distinguer les candidats, car une télévision privée n'est pas nécessairement une télévision commerciale.
Alors, plusieurs partis pris de mise en scène intéressants, on va y revenir. Le premier sur lequel on ne peut pas ne pas vous interroger, donc faire jouer des rôles d'hommes par des femmes, des rôles de femmes par des hommes, c'est un... À quoi correspond ce parti pris ?
C'est un parti pris, oui, un peu qui s'est imposé, mais c'est aussi parce que, comme il y a 70 personnages dans ma pièce et que j'avais que 10 acteurs, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de qui est dispo à ce moment-là pour faire Léotard, ou pour faire Claire Chazal, ou pour faire Bernard Tapie, et, parce qu'il y a des personnages dominants, des personnages récurrents, donc on suit sur 10 ans, et puis d'autres personnages qui sont un peu les acteurs plus connus, comme Léotard, par exemple. Et donc, effectivement, Agnès était disponible à ce moment-là pour faire Léotard.
C'est tout. On se dit toujours, il y a forcément un parti pris derrière, extrêmement pensé.
C'est-à-dire que, en fait, il y a le côté pratique, mais moi, j'aime bien dire qu'au théâtre, tout est possible. Et donc, on peut jouer un homme, une femme, sans nécessairement, d'ailleurs, qu'elle compose un homme. Mais le discours, la narration, ce qu'elle raconte a plus de valeur que son incarnation, en fait. C'est un peu ça.
On a entrevu Benoît Carrel avec son de papillon. Hein, on va dans l'extrait qu'on vient de voir. On va revenir sur vous. Le moment où vous l'avez appris, le moment où vous avez appris que c'était vous, c'était TF1. Ça ressemblait à ça, cette espèce de sidération.
La sidération, oui. Bien sûr. Hein. Alors, je ne sais pas, moi, quand on l'a appris, peut-être qu'on était en train de préparer le journal, enfin bon. Mais oui, ça a été la sidération, parce que, en effet, TF1 n'était pas... Et puis, il y avait une forte mobilisation à TF1, parce qu'on partait du principe que TF1, chaîne matrice du service public, c'était vraiment la dernière à privatiser. C'était une forme de reniement du service public. Donc, ça a été un choc. Puis le deuxième choc, il a été plus tard, parce que celui qui a récupéré TF1 n'était pas du tout celui qui était dans les tuyaux. Donc ça a été à chaque fois de surprise en surprise.
On ne spoil pas.
Non.
On va y venir. Pardon ?
Non, tout le monde sait qui a récupéré TF1.
Ah bon ?
Mais...
Non. On sait aujourd'hui pourquoi ça a été TF1 finalement ? Et plutôt que la 2 ou la 3 ?
Je crois que c'était politique entre
plusieurs parties. Le choix est très très politique. Vous vous souvenez à l'époque, donc, les privatisations commencent. Pour les autres privatisations de cette période 86-88, il y a les noyaux durs. Vous savez qu'est le cœur de l'actionnariat choisi. Et ce sont les amis du régime, hein, avec des participations croisées. C'est moi ce que j'appelais à l'époque le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels. Et là, c'est Martin Bouygues, c'est donc un proche.
Oui, mais d'accord, mais pourquoi TF1 ? On aurait pu lui donner aussi bien la 2 ou la 3.
C'est pour ça que ça fait un effet de choc sur l'opinion considérable. Mmh. C'est qu'à l'époque, en Europe... Il n'y a eu aucune privatisation de la première chaîne publique, même pas dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher de l'époque, qui est le modèle ultra-libéral de l'époque. Et donc, ça souligne le caractère exceptionnel du cadeau fait à un proche du régime.
Vous, alors, dans votre formidable enquête, vous n'avez pas éclairci ce mystère. Pourquoi ça a été TF1 plus...
C'est vrai que...
il aurait fallu aller voir les politiques, parce que je crois que ça a été, en effet, ça s'est beaucoup joué entre... les partis politiques de la majorité.
Il y avait une manne plus importante à récupérer, parce que TF1 étant une chaîne très puissante, elle coûtait plus cher aussi. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose pour l'État de récupérer plus d'argent qu'en vendant Antenne 2, peut-être, qui était plus fragile.
Je suis pas sûr, parce que l'une des polémiques de l'époque, ça a été le prix, hein, qui était.
C'est-à-dire
c'est le, donc le groupe Bouygues rachète 50% de TF1 pour 3 milliards de francs pour 10 ans.
Et on se reviendra tout à l'heure. C'est bradé.
Francis Bouygues, à l'époque, prend des postures. Francis Bouygues, donc le père de Martin, prend des postures en disant c'est excessivement cher, c'est trop, peut-être qu'on ne va pas y aller. En fait, tout le monde dit que c'est bradé. Et c'est d'ailleurs, ce sont parmi les grandes polémiques de l'époque sur on brade les bijoux de famille. Vous vous souvenez, pour les plus âgés, pas pour Thomas.
Alors, pour bien comprendre le choc que ça représente, il faut se souvenir donc que TF1 était une chaîne de service public à l'époque où vous co-présentiez le 13h avec Mourouzi.
Et puis la première chaîne, enfin voilà, je veux dire. Donc c'était la chaîne matrice, c'était vraiment, c'était le service public en quelque sorte qui était, par cette décision, mis en difficulté.
Et alors, une des incarnations de ce caractère de service public, c'était notamment le journal de Mourouzi, où, chose incroyable, il pouvait y avoir des reportages et des enquêtes culturelles, parfois même assez longues, et parfois même concernant des sujets, comment dire, culturellement légitimes, comme on dit aujourd'hui. Exemple, ce reportage sur Maurice Béjart se produisant à Moscou.
Aujourd'hui, je vous propose maintenant un petit voyage. Un voyage à Moscou, où pour la première fois, les Soviétiques ont découvert quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, Maurice Béjart et sa 9e symphonie.
Pour nous, venir à Moscou, c'est très important. C'est, je crois, une des grandes capitales du ballet, sinon la plus importante. Et nous avons toujours eu avec les artistes soviétiques des rapports très profonds, comme Plissetskaya, comme Vassiliev, comme Maximova. Mais rencontrer le public ici, c'est pour nous une grande expérience, une grande joie.
Quelles belles images que celles de cette chorégraphie de la 9e symphonie que nous devons à Béjart et qui vient d'être présentée pour la première fois aux Soviétiques. Et nous avons appris donc dans ce reportage que Béjart passerait maintenant 2 mois en Union soviétique l'année prochaine pour y faire travailler le ballet du théâtre Bolchoï. C'est une porte ouverte à la danse occidentale au sein du grand temple de la danse qu'est le théâtre Bolchoï.
Alors, encore, on a réduit le sujet, hein, parce que c'était un sujet, je crois, m'a dit Adèle Bello, de 4 ou 5 minutes. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui dans une chaîne de télé privée à un rédacteur en chef qui aurait la folie de proposer un sujet de 5 minutes sur Béjart à Moscou.
Oui, ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça a été le point de bascule quand on est passé à la privatisation. C'est qu'en effet, ça semblait plus être quelque chose d'aussi important de parler de culture dans un journal télévisé. Parce que quand on regardait le minute par minute, ça faisait soi-disant fuir peut-être 200 000 téléspectateurs, mais il restait les autres.
– Alors, à l'époque de Mourouzi et à l'époque de la télé publique, vous regardiez ce fameux minute par minute qui donne…
Non.
Mais ça n'existait peut-être pas d'ailleurs.
Non, mais le choc, il a été après, en effet, qu'on est entré dans une autre dimension. Il y avait des audiences qui étaient tous les 3 mois. Donc voilà, je veux dire, on n'était pas en état de stress permanent.
Vous pouvez me répéter ça ?
Il y avait une audience tous les 3 mois.
Vous connaissiez...
Un peu comme la radio. Hein,
vous connaissiez vos audiences tous les 3 mois.
Voilà, ouais. On connaissait nos audiences tous les 3 mois. Et en même temps, il n'y avait pas de traumatisme. Bon, il se trouvait que le journal marchait très bien, mais il n'y avait pas de traumatisme. En effet, la privatisation a fait rentrer l'audience, c'est-à-dire que jamais on avait vu ça. On arrivait affiché partout, dans les couloirs, à la porte des bureaux, dans l'ascenseur, les audiences de la veille. Alors, bon, c'est une indication et c'est intéressant, mais après, c'est ce qu'on en fait, quoi. Et c'est vrai que si ça crée un tel état d'esprit que si tout à coup on avait baissé d'un demi-point ou d'un point, on se sentait coupable. Enfin, moi, c'est des trucs que j'ai toujours assez mal vécu. Je me dis, merde, alors.
Je vous ai vu sourire, Benoît Carré, quand Marie-Laure Gris raconte qu'il connaissait leurs audiences tous les 3 mois.
Ah bah oui, c'est quasiment inimaginable d'entendre ça maintenant. Enfin, quand vous parliez du minute par minute, là, c'est vraiment... on a l'impression qu'ils ont constamment le nez collé dessus et que ça empêche toute initiative presque. Enfin, il ne faut faire que ce qui marche.
Alors en même temps, il faut expliquer que voilà, c'est la publicité qui fait vivre la chaîne et que donc c'est un lien direct, en effet, avec la publicité.
Il y avait déjà de la pub
Oui, non, voilà. Non, mais il y avait la redevance.
Mais, y avait, voilà. Mais la chaîne publique était financée essentiellement sur la redevance.
Par la redevance.
Par la redevance. Quand Thomas Quillardet est venu vous proposer ce sujet, il vous a immédiatement évoqué quelque chose ou vous l'avez découvert en travaillant votre rôle ?
Ah non, je me rappelais un tout petit peu, mais comme Thomas, c'était des souvenirs d'enfance pour moi. Moi, je me rappelais de la soirée télévisée de la privatisation, qui était une espèce de fête comme ça, qui apparaît un moment dans le spectacle. Mais sinon, non, c'est quand il m'a proposé l'idée, le projet m'a laissé un peu perplexe. Comme beaucoup de gens, je me disais, hein ? Une pièce sur la privatisation de TF1, bon, pourquoi pas ? Après, il nous a demandé parce qu'on se connaît depuis un moment, donc je savais... très en amont, quand il était encore à la phase d'écriture, je suivais le projet de près. Et donc, on a lu le livre de Pierre Péan, TF1 un pouvoir, pour se familiariser un peu avec tout ça, toutes ces coulisses. Et puis, il y a des archives disponibles en pagaille sur Internet, donc on peut vraiment se plonger.
Pas comme ça en même temps, parce que c'est une période déjà ancienne, elle n'est pas entièrement sur Internet.
Hein, non, bien sûr, mais je veux dire, pour... sachant qu'il allait falloir faire des journalistes de télévision, il y a les archives de journaux télévisés, elles sont très disponibles, donc on peut.
Une des choses moi, qui m'a décidé aussi à plonger à faire la pièce, c'est que j'ai retrouvé dans mes premières recherches le coaching. Francis Bouygues pour l'audition devant le CSA de l'époque, s'appelait la CNCL, est coaché par Bernard Tapie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnages très clownesques.
On va voir des extraits, Bouygues en est très un aussi. Donc. Mais auparavant, je voudrais qu'on voit bien oui. le rôle que vous avez confié à Benoît Carré, gentiment. Que vous décririez comment, si vous deviez décrire votre personnage ?
C'est difficile un peu de... carriériste.
Ouais.
Ambitieux, carriériste, pas forcément antipathique, mais pas
loin.
Il est focalisé sur son travail et sur où peut le mener son travail plus que.
Au téléphone, vous m'avez dit, j'adore faire des personnages de compte service.
Ah oui, alors ça c'est un plaisir. Après, vous me disiez tout à l'heure qu'il concentrait un peu tous les vices qu'on prête soi-disant aux journalistes de télévision. Ça a été l'essentiel de mon travail, c'est d'essayer de les concentrer le plus possible.
Allez, un échantillon, un petit montage de votre personnage.
Écoutez tout le monde, les salades, le basilic, l'ail, les asperges sont interdits à la vente en Italie.
Vous allez dans le mur, les gars, on va s'en prendre plein la gueule, c'est trop incertain, les scientifiques se contredisent.
On distribue des pastilles d'iode à toute la Suède. Il n'y a absolument aucun contradictoire dans nos reportages.
Et on fait du journalisme, pas de la théorie scientifique. Hein. On peut faire un papier avec des faits, là, il n'y en a pas. Sabine, tu n'as pas à traiter ce genre de sujet.
On n'est pas censé couvrir un sujet avec plusieurs angles.
Sur un sujet aussi compliqué que le nucléaire, on n'a pas besoin d'angle, mais du service éco. Je te demande de ne plus te mêler de mes sujets. Françoise ? Excuse-moi pour ma sortie de tout à l'heure, hein, mais ça sert à quoi de remuer encore cette histoire de Rainbow Warrior ? Ça a déjà coûté leur place à 3 rédacteurs. En ce moment, il faut mieux faire profil bas. Hein.
Ils ont renouvelé mon contrat comme ça, à l'oral, mais rien signé depuis 6 mois.
Mais parfois, j'en suis à la souhaiter, cette private, hein, je te jure. On a un fonctionnement de bureau des PTT de la 3ème République.
Bravo, Franco.
Merci, Polo.
Mais dis-moi, je croyais que les infos gênées, c'était tout et rien. T'as changé d'avis ?
Oui, bah justement, ils m'ont demandé de remettre de l'ordre dans tout ça, du sens.
À savoir ?
Être plus proche des gens, ça fait 2-3 ans que ce service donne des leçons à la Terre entière, il est temps de revenir à notre mission.
À savoir ?
L'info de terrain. Ils ont raison, on veut être regardé par personne. On est une télévision commerciale maintenant, mon pote, ça a le mérite d'être clair.
Vous êtes une télévision commerciale ?
Ah oui, c'est vrai, lâcheur. Je vois bien ta tête là, alors on veut faire quoi ? On veut faire des choses qui marchent pas ?
Bah on peut faire de l'info aussi.
Alors, si tu fais la discrimination raciale à l'embauche, je te garantis que tu fais un bide. Alors, moi, je veux bien hein, qu'on fasse des trucs qui nous intéressent, mais qui font des bides. Mais après, il faut assumer. Parce que ça veut dire qu'on va descendre à 40% d'audience. Hein.
Alors, si on résume, il est peureux sur l'investigation. il passe son temps à se bagarrer contre les services voisins et à défendre son petit précaré étroit. Du jour au lendemain, il devient un petit soldat de la télé privée avec le culte des audiences, c'est bien ça ?
C'est à peu près ça.
Ouais. C'est tout ce qu'on vous a collé sur le dos.
C'est ça, voilà. Oui. Bah, il s'agissait de prendre en charge le côté... Il y a une ligne comme ça dans le spectacle, une ligne d'écriture qui est que... Alors, la privatisation va entraîner tout un tas de choses pas reluisante, mais avant, ceux qui se plaignent du fait que TF1 est une chaîne publique, c'est pour dire que c'était un gros foutoir, où on n'y comprend rien, que tout le monde fait tout. Il y a une scène où Bouygues apprend ce que c'est que TF1, ouais, quand où on lui dit tout ce qui ne va pas, et donc il y a des gens qui, dans cet environnement-là, ne sont pas très heureux, dont mon personnage, qui aimerait bien que les choses soient claires et de savoir comment s'y prendre pour grimper les échelons, quoi.
Est-ce que ce personnage-là, incarné par Benoît Carré, vous a rappelé quelqu'un
à la... Non, c'est un concentré en effet de défauts que nous pouvons avoir. Ce qui est bien, par contre, bien relaté, c'est en effet les discussions ardues qu'il peut y avoir dans une rédaction, avec des points de vue qui s'affrontent, etc. Ça, c'est le quotidien d'une conférence de rédaction, où on peut se heurter un moment, en effet, à un rédacteur en chef un peu obtus, et qui... voilà. Mais on ne va pas mettre de nom, je n'ai pas de nom à mettre sur lui par rapport à un profil que
pas là sur ce plateau, mais dans la tête vous en avez peut-être quelques-uns qui tournent.
Non, mais ça correspond à voilà, c'est une mosaïque de voilà,
vous confirmez que ça, vous avez
j'ai concentré. Et après, évidemment, là, on voit le méchant, mais il y a comme ceux qui sont à la lutte et qui veulent maintenir une qualité d'info dans la rédac. C'était mon parti pris aussi, c'était de dire je voulais vraiment pas faire une pièce à charge sur les journalistes, que je sais que ça peut vraiment mener à un danger. Au contraire, on voit des journalistes aussi qui sont à la lutte et qui essayent de défendre quand même leur éthique. Et y en a une qui dit, moi, j'ai commencé dans le service public, je vais faire comme si j'étais dans le service public encore, quoi. Alors, est-ce qu'elle y arrive ou pas ? Faut voir la pièce. Mais j'aime bien ça, les gens qui, effectivement, retournent leur veste, et puis d'autres qui sont à la lutte, puis d'autres qui se mettent dans le confort. Voilà, qui disent, bah, c'est pas bien grave finalement. Il y a beaucoup de journalistes qui disaient, je vais partir. Puis en fait, ils sont restés.
Ah
voilà.
Oui.
Voilà, enfin, c'est ce qu'on a. J'ai eu beaucoup de.
D'abord, il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour partir. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision.
Quand non, même, enfin, la porte était ouverte. Alors, avec le chéquier.
Oui. Il y a des gens qui sont partis. Moins des gens de la rédaction que des GRI, que des preneurs de son, des gens de la rédaction. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais pas tant que ça.
Il y en a quelques-uns qui sont partis 2 ou 3 ans après.
Mais voilà.
Un Bruno Mazur part combien voilà. 2 ans après.
Moi, je suis parti trois ans après.
À l'époque, le patron de la chaîne, essaie de le retenir. Parce que même si Mazur est réputé de gauche,
le lait
lui dit, vous faites partie des meubles de la maison. Quoi. C'est ouais. L'aspect capitalisme familial. Donc on garde les salariés.
Alors en même temps, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je veux dire, les audiences dans les ascenseurs, ça n'a pas été au lendemain de l'arrivée de Bouygues.
Ça a été presque tout de suite. Ah oui. Non, ça, enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu une adaptation. Non, ça a été. Alors après, je pense que. Pour médiamétrie, alors je ne sais pas si à ce moment-là c'était médiamétrie, ça a été aussi de mettre en place un autre mode de fonctionnement parce qu'on ne mesure pas sur 3 mois et au quotidien, voilà. Donc il a fallu mettre en effet en chantier cette forme de mesure, mais ça a été, ça a été tout de suite.
Alors, vous parliez tout à l'heure de cette scène où effectivement Francis Bouygues arrive. Alors il y a un petit audit qui dure quelques temps et il découvre effectivement l'état, on va dire, quand même sinistré. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans votre pièce de la chaîne. Alors avec une scène tout à fait saisissante qu'on regarde.
Je vous écoute.
Il n'y a rien.
Comment ça ?
Il n'y a rien. Rien du tout. Pas de direction des ressources humaines. Pas de plan de trésorerie. Les budgets sont sur des feuilles volantes.
La moitié des salariés n'est pas fichue de me dire le nom de son poste. Ils commencent tous par « Ah, moi, je suis responsable de… » et ils ne finissent jamais leur phrase.
C'est un millefeuille de contrats. Ça mélange CDD, CDI, parfois les deux en même temps. Certains bossent là depuis 6 ans et n'ont toujours rien signé. Il n'y a rien de clair. C'est un bordel sans nom.
Les bureaux sont immondes. Odeur de vieille clope, café froid. Bon. Et le réseau informatique ?
Il n'y en a pas, Francis.
Il y a 2 ordi dans toute la boîte. Un vieux bulle et un compact. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient servi un jour. Les fiches de paye se font à la main.
Bon.
Quoi d'autre ?
Collaros, Sabatier, Patrick Sébastien et Jean-Claude Bourré se barrent sur la 5. Les contrats étaient signés avant la fête de passation.
Bon.
Il faut tout renouveler, Francis.
Se débarrasser d'au moins 200 personnes. Hein.
Dont une centaine à la rédaction.
Il faut tout reprendre à zéro. Bon.
Très belle scène. Alors, on sent que vous ne vouliez pas être manichéen, c'est bien ça. Et vous ne vouliez pas rendre le plus beau qu'il ne l'était l'état antérieur de la chaîne dans le service public. C'est ça ou...
Pour moi, c'est la rencontre de deux mondes. D'ailleurs, vous me l'aviez très bien formulé quand on s'était vu. C'est la rencontre des géomètres et des saltimbanques. Quoi. C'est-à-dire que pour la rédaction de TF1, ils font tout. C'est un peu la bande de copains. Ça se passe très bien, ça roule. Et pour Bouygues, qui a une culture d'entreprise, avec une hiérarchie, avec des locaux tout neufs, rutilants à 50 ans en Yvelines, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que pour moi, c'est la rencontre. Là, le fait que les fiches de paye se fassent à la main, pour lui, c'est impensable. Pour les salariés de TF1, ben, c'était comme ça, en fait.
Les fiches de paye se faisaient à la main ?
Oh, alors ça, j'en ai aucun.
Je crois que c'était partout à l'époque. Hein. C'est à la fin des années 80 qu'une société... Ouais. Dont Edouard Paladur était actionnaire, qui crée une société pour faire les fiches de paye de manière automatisée.
Enfin, l'entreprise n'était pas antédiluvienne quand même. Il y avait un grand PDG qui s'appelait Hervé Bourges et qui a, au contraire, fait beaucoup progresser la chaîne. Maintenant, ce qui est vrai que. Il n'y avait pas la rigueur d'un fonctionnement comme il pouvait y avoir dans le bâtiment. Ça, c'est sûr que ça n'avait rien à voir et qu'il y avait un sous-équipement vraisemblablement par rapport à ce que pouvait avoir. Parce que je pense qu'en effet, chez Bouygues, ça devait être à la pointe de ça. Et donc, voilà. Bon, les locaux, oui, en même temps, ils avaient une âme.
Mais c'est beaucoup de journalistes ont raconté ce choc justement du déménagement de Cognac G, où il y avait une âme
dans la rue Cognac G, voilà, où se trouvait le siège historique de la télévision. Voilà.
Et puis c'était symbolique aussi. Il y avait une âme, mais c'était aussi, ça y est, c'est nous qui prenons les choses en main. Oui. Vous allez vous installer là,
à Boulogne,
et on va remettre les règles, des règles en jeu.
La fameuse rue Cognac G de « À vous Cognac G », effectivement, c'était l'immeuble où étaient concentrées toutes les chaînes de télé. Une à un étage, la deux au-dessus ou au-dessous, je ne sais plus.
Alors, ce n'était pas en effet d'un grand luxe.
Ouais. On voit quand même que le service public, ce n'était pas non plus le rêve.
C'est sûrement, mais moi, ce qui m'intéresse dans la pièce de Thomas, c'est comme certains bons documentaires qui ont une vie dans les réseaux de salles un peu citoyens. Ça se prête à un débat. Or, l'intérêt, je trouve,
c'est aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, mais absolument. C'est qu'il y a je trouve que ça invite à deux réflexions. Un qui est très d'actualité, parce que je vous rappelle qu'il y a un projet de rapprochement TF1-M6. Donc, les grandes manœuvres capitalistiques perdurent. Mais l'intérêt de remonter à 96, je dis ça pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est que c'est un point de bascule dans l'histoire de la télévision française. Et Marie-Laure pourrait le dire de manière peut-être plus détaillé que moi, parce qu'il y a deux événements forts à cette époque. Il y a 1985, le lancement de la 5 de Berlusconi, et puis il y a la privatisation de TF1. Et ça va être le début de l'implosion du paysage audiovisuel. Ça va prendre de longues années, puisqu'au tout début, Patrick Lelay, le patron de TF1, dit non, on ne fera pas de télé-réalité, par exemple. Donc ils sont soumis à une obligation qui est le mieux-disant culturel. Du temps où nous étions tous les deux au Monde, il y avait encore une tribune de Patrick Lelay qui dénonce la télé-réalité de M6 quand M6 commence Love Story, en disant que pour des raisons éthiques, déontologiques et morales, TF1, jamais de télé-réalité. Bon, et en fait, ce sera le point de début du basculement vers la télévision, le pire de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Là, on est quand même une quinzaine d'années après la privatisation.
C'est un processus long, lent. Voilà, mais c'est quand même, ça a été ça, ça a été le démantèlement du service public et de ses obligations.
Alors, il y a un moment extraordinaire, je dois dire, dans la réalité et dans votre pièce, c'est effectivement les auditions du groupe Bouygues devant l'ancêtre du CSA qui s'appelait la CNCL à l'époque, où alors tout l'état-major de Bouygues arrive et fait toutes sortes de promesses sur effectivement ce qu'ils vont faire de cette chaîne. On écoute d'abord. Alors, On dispose des enregistrements, ce qui est formidable, on les a, et de ce que vous en avez fait dans la pièce. Alors, on regarde d'abord Patrick Lelay, vous en parliez, Laurent, promettant monts et merveilles culturelles.
Notre grand projet repose sur des idées simples. Informer, divertir, cultiver. Je passe maintenant la parole à Patrick Lelay, qui va vous exposer les grandes lignes de notre projet.
En ce qui concerne la musique, nous aurons prévu au moins 8 concerts qui représenteront 16 heures de diffusion et au moins 8 spectacles lyriques et chorégraphiques, dont 5 grands événements de 2h30 en moyenne, type Festival d'Aix, Beyrouth, chorégraphie d'Orange, 3 spectacles appartenant à un répertoire plus populaire.
Juste une seconde. La grande musique, la musique classique, je crois qu'on doit en plus être événementiel. On doit pouvoir traiter l'année Ravel, ou on doit pouvoir traiter l'anniversaire d'Olivier Messiaen. On doit aussi pouvoir montrer, après avoir montré que la musique était la noblesse du son, quelle est la noblesse de l'image.
Alors, évidemment, dans la pièce, vous en avez fait votre miel.
Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, Madame Catherine Tasca, d'abord pour la culture, je crois.
Ah bon, déjà ?
Eh oui, déjà, monsieur Bouygues. Alors, Madame Tasca ?
Oui, ma question est très directe et simple. Que verra-t-on en matière de culture à l'antenne si vous êtes attributaire de TF1 ?
Patrick.
Oui. Eh bien, vous verrez beaucoup de choses. Et d'abord, vous verrez du théâtre. C'est une priorité. Au moins 28 spectacles artistiques sur la chaîne en 1989. 10 grands événements, 10 spectacles du répertoire populaire et 8 spectacles en province. Il y aura donc 12 spectacles théâtraux. Et alors, je ne donnerai qu'un exemple, il y a un projet de retransmission du mariage de Figaro mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Donc, nous serons une chaîne de culture. Et nous avons l'ambition d'apposer notre marque de ce point de vue-là. Nous vous affirmons que nous sommes les mieux-disants en matière de culture. N'est-ce pas, Francis ?
Oh, tout à fait, c'est bien juste de le dire. Ma passion, c'est le challenge. Ma passion, c'est ce qui se passe devant.
Dallas, ça a été combien de temps après la privatisation et après ces grandes promesses
C'était concomitant en fait. Dallas était déjà présent sur TF1, mais je l'ai mis parce qu'en fait, à un moment, ils interrompent la série pour annoncer que c'est Bouygues qui a été, choisi.
L'annonce est tombée pendant la
Pendant Dallas.
Quel symbole.
C'est pour ça qu'il y a un flash spécial.
Quel symbole. Alors, on a entrevu Bernard Tapie qui, effectivement, faisait partie à l'époque de l'équipe Bouygues et pour cette fameuse audition devant la CNCL, a entraîné toute l'équipe, comme c'est d'ailleurs d'abord montré dans la pièce.
Les femmes, nous les connaissons bien. Et la une, c'est quoi ? C'est 7 millions d'hommes, mais aussi 9 millions de femmes. Alors si aujourd'hui je rejoins Francis Bouygues, c'est pour lui rappeler qu'elles existent, ces 9 millions
voilà,
de
voilà,
femmes.
Voilà, voilà, voilà. Par contre, c'est de temps en temps. Le texte, c'est de temps en temps.
Pardon ?
Le texte, c'est de temps en temps et hop, petit regard sur le côté, tu sais, on avait dit.
Ah, mais de quel côté ?
Mais du côté de Francis. Si tu cherches un appui, c'est toujours du côté de Francis. Hein ? Alors, de temps en temps et hop, petit regard sur le côté, du côté de Francis. Bim, allez.
Alors, si aujourd'hui je rejoins Francis Bouygues, c'est pour de temps en temps le lui rappeler qu'elles existent, ces 9 millions de femmes.
Evelyne.
Alors, vous avez aussi hérité de Tapie, hein.
Oui, oui. Qui était la caution éthique de l'équipe Bouygues, ce qui est quand même assez savoureux, quoi.
Comment vous avez travaillé votre Tapie ?
Oh ben, j'ai pas essayé de trop limiter, parce que, bon, sinon, on s'en sort pas. Enfin, moi, je sais pas trop faire ça, mais j'ai regardé un peu les vidéos, et puis... je ne sais pas exactement. Enfin, c'est des choses de répétition, ça, qui se font peaufines comme ça. Mais...
Et notamment la vidéo des médias training par Tapie de la vraie équipe Bouygues.
Les femmes, nous les connaissons bien.
Nous avons suivi leur évolution depuis longtemps. Nous connaissons leurs centres d'intérêt, leurs préoccupations. Nous savons ce qui les passionne.
Les femmes, nous les connaissons bien.
Ouais. C'est complice.
Nous les connaissons bien. On connaît leur évolution, leur goût, leurs sentiments, ce qui les passionne. Et si moi j'ai rejoint Francis Bouygues, c'est tout simplement pour lui rappeler de temps en temps qu'il y a cette
évolution. De temps en temps, ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait ?
La Une, c'est quoi ? C'est 9 millions de... Ça y est, je m'embrouille. C'est 7 millions d'hommes. Non, mais c'est pour ça. La Une, c'est quoi ? C'est 7 millions d'hommes et aussi 9 millions de femmes. Alors, si je rejoins aujourd'hui Francis Bouygues, c'est pour lui rappeler de temps en temps qu'il existe ces 9 millions de femmes.
Qui était Évelyne Prouvot ?
C'est Marie-Laure Gré qui a la mémoire. Ça, je...
Évelyne Prouvot, c'était... c'était quoi ? C'était le groupe Marie-Claire, etc.
C'était la PDG et l'héritière du groupe Prouvot, grand groupe de médias en France depuis l'entre-deux-guerres, qui possédait entre autres Marie-Claire. C'est des extraits absolument terrifiants, parce qu'on se rend compte à quel point tout ça a été du théâtre.
Ouais. Et l'éruption de tapis dans l'histoire est assez sidérante. Ouais. Ensuite, ce sera une autre histoire que la sienne. Mais en fait, tapis travaille avec Patrick Lelay dans une société... commune, et Tapie rentre aussi au capital à côté de Martin Bouygues, donc c'est petit actionnaire, mais c'est un homme fort en termes de communication, et donc il y a cet attelage stupéfiant Francis Bouygues, Bernard Tapie, ce qui fera qu'il aura toujours son rond de serviette pendant des années, et ensuite ultérieurement sur ce qui restera du service public.
Bon, alors le groupe Bouygues s'est assis sur toutes ses promesses, hein, les heures de théâtre, les heures de concert, etc., l'année Ravet, bon, comment expliquer que l'État, le régulateur, les laisser aussi facilement s'asseoir sur toutes les promesses qui ont été faites en 87.
Je trouve qu'il y a deux réponses. Il y a une réponse qui concerne le régulateur, donc le CNCL d'abord, le CSA ensuite, qui s'est avéré très faible. Mais la vraie question, c'est les pouvoirs que la loi lui donnait. Donc c'est la vraie responsabilité des politiques. Parce que c'est vrai que c'est très choquant, c'est qu'il y a donc ce bouton atomique qui est le mieux-disant culturel. En clair, on aurait pu imaginer que le groupe Bouygues, progressivement abandonnant cette obligation dans le cahier des charges, on aurait pu éventuellement faire cette menace. Attention, retrait de fréquence. C'est-à-dire la fréquence reste un bien public. Or, on ne le fera jamais. Or, les premières polémiques arrivent vite. Hein, dès 98-99, il y a des associations de téléspectateurs. Il y a Arnaud Montebourg qui est député, qui disent « Regardez, ils n'ont rien respecté ». En plus, en termes de pluralisme, la chaîne ne respecte pas ses obligations, notamment lors de la campagne de 97. Or, ça n'aura jamais lieu, et même le groupe TF1 privatisé basculera de l'autre côté. Vous vous souvenez de la formule célèbre et affreuse de Lelay sur le temps de... Qu'est-ce qu'on vend ? On vend maintenant du temps de cerveau disponible.
Aux annonceurs.
Aux annonceurs. Et donc, ils iront totalement à l'opposé. Et donc,
non, mais alors, pourquoi, Laurent Mauduit ? Pourquoi ? Pourquoi on les a laissés s'asseoir sur leurs obligations
Moi, je trouve que c'est...
Y compris la gauche. Y compris la gauche quand elle est au pouvoir de 1997 à 2002 avec le gouvernement Jospin.
Y compris la gauche. Alors, et la gauche, il y a une sorte de faiblesse. Parce que quand Jospin devient chef de file avant les élections législatives 1997, il y a un grand débat sur les dégâts suscités par TF1. Or, ils ont peur. Ils ont peur.
De quoi ?
Ils ont peur de la force d'influence que représente désormais TF1. Et donc les socialistes, sur très longue période, resteront tétanisés. C'est vrai en 97, ça l'est encore plus en 2007. Souvenez-vous, le seul...
Ce qu'il faut rappeler, ce dont on ne se souvient pas forcément, c'est que quand Bouygues obtient la concession en 87, il l'obtient pour 10 ans, seulement.
Voilà, c'est l'autre.
Seulement.
Il y a deux ouais. reniements dans la privatisation. Ouais. C'est un, l'abandon de cette obligation... de mieux-disant culturel. Et puis, il y a surtout, ce n'est pas présenté comme une privatisation, c'est présenté comme une concession avec des obligations de service public, comme une concession. Or, mais c'est le cas quasiment de toutes les privatisations.
Et pour 10 ans.
Pour 10 ans. Avec,
non, et c'est important parce que ça veut dire qu'au terme des 10 ans, si on décide de ne pas renouveler, l'État n'est pas obligé de rembourser.
Oui. Et dans la loi de privatisation, il y a au bout des 10 ans un nouvel appel d'offres. Ouais. Et tout le monde pourra conquérir. Or, juste avant les 10 ans, il y a une loi portée à l'époque par un ministre qui s'appelle Carignan, qui abandonne l'obligation de faire un appel d'offres et qui donne le droit au régulateur de prolonger.
Et donc, en fait, ce sera prolongé en 1994. Jospin reprolongera, je ne rentre pas dans les clauses techniques du contrat, c'est compliqué, jusqu'en 2007. En 2007, TF1 change de nom, la holding de tête, ça devient TF1 HD, haute définition, en prévision de l'arrivée de la TNT. Donc, du coup, on relance la concession pour 10 ans. Bref, ça va durer.
Aujourd'hui, on en est où ?
Ben, le dernier contrat arrive à échéance en 2023. Donc, au total, TF1 regardait la propriété de la chaîne pour 36 ans, sans payer un sou de plus, sans payer un sou de plus. Hein, et donc, on a privé TF1 restait un bien public, une marque publique. Donc,
théoriquement, en 2023, c'est remis sur la table.
Là, je vais dire que vous expliquez pourquoi ce sera non. Précisément parce qu'il y a un projet de fusion TF1-M6 et je vous donne mon pari que ce sera le prétexte pour reprolonger la concession. Mais bon, c'est l'abandon d'un bien public sans débourser un sou pour celui qui a mis la main dessus.
Ah mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ce projet de fusion TF1-M6, a priori, on pourrait se dire que bon, ben voilà, c'est deux chaînes privées, finalement, est-ce que c'est si grave que ça ?
Mais ça renvoie, c'est pour ça que la pièce est aussi peut-être la matière d'un débat important, c'est qu'on assiste maintenant de plus en plus à des facteurs de concentration, et dans la stratégie d'Emmanuel Macron qui favorise le rapprochement TF1-M6, c'est une riposte à ce que fait Vincent Bolloré. Macron est fâché avec Bolloré. Comme l'empire Bolloré devient gigantesque, c'est une intégration horizontale et verticale absolument sans précédent. Hein. Du même coup, en face, il y a une autre concentration qui se prépare.
Alors, si on considère que effectivement, les chaînes Bolloré sont un danger majeur politiquement pour la démocratie, oui, on pourrait se dire que c'est pas mal de leur mettre un mastodonte en face.
Oui, c'est la seule chose qu'on oublie, c'est que du coup, on est dans des logiques d'influence. Et la question, qui est quand même une question majeure en démocratie, sur la qualité de l'information, l'honnêteté de l'information, on s'en éloigne. On est dans des bagarres capitalistiques où les politiques, la puissance publique favorisent un groupe plutôt qu'un autre en espérant qu'il y aura un retour sur investissement. C'est que le groupe TF1-M6 favorisera la campagne. Et ça a été pour TF1 un procès récurrent. Vous vous souvenez de Bayrou en 2007, au moment de la campagne présidentielle. C'est le seul à l'époque, depuis lui-même a oublié de ce qu'il disait, qui met en cause Claire Chazal quand il est invité sur le plateau de Claire Chazal, en disant « Mais Madame Chazal, vous vous souvenez de qui est votre actionnaire ?» Et vous souvenez qui, politiquement, il soutient.
Alors, il y a les actionnaires et il y a aussi les annonceurs. Et effectivement, avec le financement qui bascule vers un financement uniquement publicitaire, les rapports de la chaîne avec les annonceurs deviennent quand même assez délicats, comme le montre une des anecdotes rapportées dans la pièce. Alors, la bagarre d'une journaliste pour faire passer un sujet mettant en cause l'entreprise Danone pour des faits de pollution. Regarde.
Alors, qu'est-ce qu'on a ?
La greffe de la petite Maude et l'appel de ses parents, les vannes d'oxygène fermées par inadvertance à l'hôpital de Saint-Denis.
Pour l'instant, c'est en 3, mais ça peut nous faire une ouverture.
Sinon, on a le salon du tourisme à la porte de Versailles avec un focus sur la tendance des gîtes.
Ouais, et pour la page inter, qu'est-ce qu'on a ?
L'Afrique du Sud, évidemment.
J'ai mon truc sur Danone. J'ai vu avec Mimi, elle est d'accord pour qu'on y aille.
Michel, c'est Étienne ?
Oui ?
Il faut que je te parle de quelque chose.
Quoi donc ?
Oui, tu en fais ce que tu veux, bien sûr, mais...
Oui ?
Danone.
Oui.
On ne peut pas y aller.
Sabine, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Cette histoire de Danone, ça plaît pas.
Ça plaît pas à qui ?
Ça plaît pas.
Ça plaît pas. Comment ça ?
Ça plaît pas, point. Ça va me demander pas mal de diplomatie.
Je pensais qu'on pouvait tout dire dans cette rédac, que rien n'avait changé.
Ouais, on peut tout dire, mais pas certaines choses.
Je comprends pas.
Danone est l'un des principaux annonceurs de la chaîne. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça qu'il faut entendre, Sabine.
Michel, je vais pas lâcher et je veux pas le 23h. Ça, c'est une info pour le 13h et pour le 20h.
Non, Michel, on ne peut pas y aller. Alors, rien ne prouve que ce soit à cause de Danone, donc ça me gêne de donner une info sans preuve. Info que même dément en plus.
Le sujet a l'air solide, Étienne.
Non, c'est pas à TF1 d'être fouille-merde comme ça, c'est pas nous. Danone est une marque emblématique que les Français aiment. Ça va froisser, Michel, ça va froisser.
Qui ?
On a très bien compris. À plus tard.
Étienne.
Oui.
J'ai pris la décision de parler de Danone.
Je le note.
Le groupe Danone, mis en cause pour la pollution d'une rivière jouxtant son usine de Pontchâteau. Des milliers de poissons seraient morts suite à la fuite d'une de ses cuves.
Donc, dans cet épisode-là, ça se termine bien, si j'ose dire, c'est-à-dire que le sujet accusant Danone de pollution passe, finalement. Oui, oui.
Ben c'est ça, en fait, c'est ce que je voulais montrer dans le spectacle, c'est qu'il y a des, jours où on est courageux, donc on décide d'y aller parce qu'on a, voilà, on s'est réveillé du bon pied, on va dire, on croit à un sujet, puis il y a des jours où on va avoir plus la flemme, où la fatigue va user un peu la lutte aussi de la hiérarchie, mais voilà, il y a une forme d'autocensure, bon, les journalistes m'ont pas mal parlé de ça quand même, hein, qui se met en place, et donc du coup...
Là, c'est pas de l'autocensure, hein. Censure claire et
mais ce que je veux dire, c'est que si on sait que son patron, son supérieur hiérarchique, ouais, va nous poser problème, va nous, entre guillemets, un peu nous harceler tous les jours pour pas que ça se passe, à un moment, par flemme ou par envie d'aller plus vite, on va aller sur un autre sujet, en fait, plus facile.
Alors, le personnage incarné par Benoît Carré n'a pas de nom, mais en revanche, là, les personnages qu'on voit ont bien des noms. Michel, c'est Michel Cotta. C'est Michel Cotta, directrice de la rédaction. Et on voit bien comme elle est entre le marteau et l'enclume. Et Étienne, c'est évidemment Étienne Moujotte, directeur général de la chaîne. Et alors ça, c'est une anecdote qu'on vous a racontée.
C'est une anecdote que deux personnes m'ont confirmée.
Voilà, que vous tenez de plusieurs sources.
Oui, qui est réelle. Hein,
vous avez vécu ça?
Non, alors, moi, je n'étais pas au sein même de la rédaction à ce moment-là, parce que je faisais une autre émission, mais oui, et je pense que...
l'affaire Danone, vous était revenue aux oreilles.
Non, mais elle est exacte, et je pense que ça a dû être très compliqué pour Michel, mais qui, à un moment, a affirmé... Et elle a vraiment été un paravent très important pour la rédaction. Elle n'est pas restée non plus, hein. C'est qu'à bout d'un moment, ça, je veux dire, ça n'a pas plu. Mais... Michel, oui, elle a été à un moment, elle a dit ben non, je m'oppose. Et elle savait qu'à partir du moment où elle s'opposait, ça devenait compliqué pour elle, hein, puisqu'il n'y avait pas eu de soumission et que l'acte de désobéissance était.
Comment ça s'est terminé pour elle? Elle est partie, elle a été renvoyée, comment ça s'est terminé?
Je ne sais pas combien de temps après l'affaire Danone, Michel est parti, hein, mais en effet, on l'a appelé un matin, on lui a dit c'est terminé. Hein. Mmh. C'est d'ailleurs dans le.
C'est
d'ailleurs
aussi,
dans la pièce de théâtre.
Elle a été virée.
Elle a été licenciée. Elle a été virée. C'est une espèce d'accumulation de choses. Mais ce qui a sonné le glas pour elle, c'est qu'elle a voulu faire une charte de déontologie. Oui. Parce que pendant la guerre du Golfe, en fait, c'est aussi relaté dans la pièce, l'ambassade d'Irak a envoyé des Rolex en or aux cadres représentateurs de la chaîne. Et deux personnes ont refusé ce paquet. Anne Sinclair et Michel Cotta, les autres l'ont accepté. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit, je vais quand même... Puis c'était les premières embrouilles avec PPDA, l'affaire Botton, etc. Elle s'est dit, je vais quand même mettre en place une charte de déontologie. Et c'est là où on lui a dit, merci, bonsoir, à bientôt.
Mais c'est dommage, c'est qu'on n'est pas mutués. Moi, à l'époque, je suis à Libération. Hein, je dirige le service économique. Et je reçois des coups de téléphone d'insultes en permanence d'Antoine Ribault, le PDG de Danone. Il était interventionniste, menaçant sur beaucoup de rédactions.
Y compris à Libé.
À Libé, oui, moi je l'ai vécu.
Où il avait quand même à l'époque moins de prise que sur
Libé. Non, parce qu'il était actionnaire de Libé. Il faisait partie des actionnaires soi-disant de gauche qui étaient au capital de Libération.
Il était actionnaire.
Ouais, ouais.
Et alors, vous receviez des coups de fil à quel propos?
Un papier, je me souviens, j'ai un souvenir très précis. On avait écrit un papier annonçant dans cette logique de capitalisme familial qu'il allait passer le relais à son fils. Et on avait fait ça, le capitalisme familial, et on avait pris Danone plus quelques autres groupes. Et je me souviens d'un coup de téléphone d'Antoine Ribault parlant de la journaliste qui avait écrit. Enfin, je ne répéterai pas les mots injurieux qu'il m'avait dit, mais c'était une tempête. Et je vais appeler Serge Julie. Heureusement, Serge Julie, lui, faisait écran.
C'était le Michel Cotta de Libération. Alors, sur l'épisode de la charte de déontologie, c'est un épisode qui est aussi relaté dans la pièce.
Michel ?
Oui.
J'ai lu ton ébauche de charte déontologique. Ne pas accepter de cadeaux de plus de 500 francs, refuser les invitations en week-end. Ça passera pas auprès de Poivre, il va se sentir directement visé.
C'est une demande d'une partie de la rédaction, je ne fais que suivre.
Mais Poivre, il est au courant ?
Pas encore, j'aimerais qu'il ne le soit pas tout de suite. Je peux compter sur ta discrétion. Ah ! C'est le lait !
Et au fait, tu sais, cette charte déontologique, je dois t'avouer que ce n'est pas une priorité pour nous. On ne veut pas pointer Poivre du doigt, malgré ses défauts. Il a vraiment l'esprit maison, c'est notre avis.
Voilà. Et alors là, vous donnez le nom sans aucun problème, le nom de Poivre.
Oui, bah oui, bah parce que lui, il a eu, il a été embêté par la justice, donc les histoires sont connues quand même. Puis il a été mis à pied par la.
Mais par exemple, moi, je ne savais pas que personnellement, il s'était opposé à la charte de déontologie ou que même c'était pour ne pas susciter son opposition que cette charte finalement était passée à la trappe.
Ah oui, si, si, très. Bah, elle était faite pour lui, hein. Faut quand même le dire. Oui, bah oui, parce que il acceptait beaucoup de cadeaux. Il y avait cette histoire de Rolex en or quand même qui était. Donc elle est, voilà, ce qu'on m'a
c'est
raconté.
C'est ce qu'on vous a raconté.
C'est qu'elle était vraiment bâtie pour. Pour ça et
vous l'avez rencontré lui?
Non, j'ai pas rencontré les.
Vous l'avez demandé?
Je lui ai laissé un message à Sylvie Carchazal et à Jean-Pierre Pernoud. J'ai pas insisté parce que je savais que déjà que je voulais pas leur donner la parole. Ils sont présents dans le spectacle, bien sûr.
Ah, mais... Ils doivent être contents.
Mais j'ai pas insisté. J'ai plus insisté.
Pourquoi vous avez pas insisté?
Parce que je savais que mon projet, c'était pas sur les présentateurs. Où, je savais que moi, je voulais donner la parole aux journalistes qui avaient juste au moment la parole. Et puis, je dois dire que cette. Je m'en remercie moi-même. Et je n'avais pas déjà, il y a 3 ans, beaucoup d'empathie pour ce personnage.
Ah, d'accord, mais bon. Moi, personnellement, j'aurais insisté. Voilà.
Je ne sais pas si.
En tant que journaliste.
Je ne sais pas s'il y a suffisamment de recul. Pardon? Avec Marie-Laure, c'était intéressant parce qu'il y a du recul. Ouais, avec Anne Sinclair, c'était intéressant parce qu'il y a du recul. Michel Cotta aussi. Ouais. Il est resté trop longtemps, je crois, en poste trop important comme ça, et puis trop récent. Je ne sais pas, j'ai pas insisté.
Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas poser la question. Les affaires pour lesquelles il est inquiété, on va dire, aujourd'hui, ces affaires de viol, d'agression sexuelle, ces multiples accusations, on en est à plus de 20, je crois, entre 20 et 30, avec celles de ces tout derniers jours. Certaines remontent aux années qui suivent immédiatement la privatisation de TF1, des années où vous étiez encore dans la rédaction. Donc, je vous pose la question, comme on la pose ces jours-ci à tous les journalistes, vous aviez vraiment entendu parler de rien?
Alors moi, je suis partie en 91, mais enfin, j'étais là.
Il
y a les affaires antérieures. Je suis quand même dans la rédaction. De là à savoir ce qui se passait une fois la porte fermée dans le bureau, c'est autre chose. Mais je veux dire, on savait quand même que Patrick était quelqu'un qui... Il glissait des petits papiers dans les poches de jeunes journalistes, etc., en leur disant « Passez me voir dans mon bureau, j'aimerais connaître votre parcours professionnel. » Et on disait « Écoute, faut peut-être éviter. »
On lui disait à lui ?
Non, à la fille.
À la fille, on disait à la fille. On ne pouvait pas lui parler à lui. Votre statut à vous, vous n'étiez pas n'importe qui. Vous étiez ancienne co-présentatrice, une figure connue de la chaîne. Enfin, vous étiez pas quelqu'un qu'on aurait pu, comme ça, virer du jour au lendemain.
Si j'avais eu vent, en effet, des témoignages et de ce qui se passait comme ça, oui, je pense que j'aurais fait comme celle qui était responsable de la filiale de TF1.
Qui a prévenu Patrick Lelay le lendemain d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle.
Mais... on va dire que tout le monde savait que Patrick était chaud lapin et que quand même, il valait mieux être méfiant.
Mais ce dont vous aviez eu vent ne dépassait pas non. le stade du petit papier glissé dans la poche.
Voilà, comme ça, des attitudes, mais pas en effet des faits aussi flagrants et terribles que les témoignages qui étaient là.
Qu'on entend ces jours-ci. Oui.
Tout à l'heure, je réagissais. Oui. En me disant que c'est assez rare qu'un metteur en scène respecte l'obligation du contradictoire journalistes sont soumis. C'est pour ça
moi, je vous parlais en tant que journaliste. J'aurais eu la curiosité, mais vous n'aviez pas envie de vous faire polluer par le...
Non, mais il a respecté. Il a quand même envoyé...
voilà, c'est ça.
Message,
il va lui envoyer le lien, d'ailleurs, de la pièce.
Je pense que je vais les inviter à voir la pièce. En plus, je pense que dans les histoires de départ, ils sont un peu soumis aussi à un silence, Claire Chazal et lui... Comme ils ont été licenciés, je ne sais pas s'ils peuvent parler du passé comme ça aussi librement que Marie-Laure.
C'est-à-dire que Poivre, il en a un moment parlé, et ce qui fait que ça réduit ses indemnités, parce qu'il a TF1 l'a attaqué là-dessus. Et en effet, ils ont une charte de confidentialité.
Alors, la privatisation a un effet sur l'information, on l'a vu, elle a aussi un effet sur les programmes. Et c'est là où on voit apparaître non pas des grands directs sur Béjart ou sur... ou sur l'année Ravel, mais notamment les sitcoms françaises ou américaines que vous mettez en scène aussi de manière très drôle. On regarde.
–
N'importe laquelle. Dis-moi, Andrea, as-tu jamais couché avec un garçon? C'est une question très indiscrète, ça.
Si tu devais choisir un garçon pour ça au lycée, tu prendrais qui?
Je ne sais pas. Je crois que si je devais choisir, je crois que ce serait probablement...
Brandon?
Non, pas Brandon.
Voilà, effectivement, on est peut-être dans l'image la plus typique à la télévision privée des années 80-90, c'est-à-dire la sitcom américaine, ces jeunes filles blondes, les Brandon. Et peut-être que l'effet le plus, pour le téléspectateur hein, et en matière culturelle, peut-être que l'effet le plus immédiat, c'est celui-là, non ?
Un des grands mensonges quand même aussi de cette privatisation, c'est dit par Léotard au moment où il annonce la privatisation de TF1, il dit « je veux faire de la France la première chaîne, la première créatrice d'images. Je ne veux pas que dans 20-30 ans, nos écrans soient envahis par les séries américaines. » Donc il y a quand même aussi un côté un peu clownesque, puisque c'est ni Julie Lescaut, ni Joséphine Ange-Gardien qui sont diffusées au niveau mondial. Donc c'est vrai qu'en fait, après, TF1 est abreuvé de séries américaines et qui ne respectent pas du tout leur obligation de création française non plus. Et donc cette privatisation qui, à la base, était pour remettre la France sur la scène internationale de l'image et de la création d'images, était aussi une vague humisterie, en fait.
Mais je pense que l'impact de la privatisation, il s'est surtout vu avant tout dans les programmes.
Il y a une chose qu'on... aussi très forte, je trouve, mais que la pièce ne peut pas illustrer, c'est les effets de porosité. C'est pour ça que ça engage une sorte de tectonique des plaques, c'est que ça va tout tirer vers le bas et qu'il y aura des phénomènes de porosité avec ce qui reste du service public.
Alors, comment ça se passe? Comment on peut décrire ce phénomène de porosité? Je sais, c'est très important.
Vous le décriverez mieux que moi parce que vous avez peut-être plus que moi la mémoire des évolutions, mais on le voit bien en matière d'information. Si on regarde maintenant le journal de le 20h de France 2 et celui de TF1, honnêtement, je n'y vois pas de différence. Et parfois, il m'arrive même de constater que je suis de TF1 et peut-être meilleur, je ne sais pas, mais voilà, il y a une sorte de course à...
C'est-à-dire que tout le monde a imité, c'est-à-dire
la grande confrontation pertinence oui. et oui. audience, c'est l'audience qui va l'emporter, et l'audience va être de plus en plus tirée vers des éléments de plus en plus, d'abord populaires, ensuite populistes, voilà. Ensuite... voilà, donc c'est une évolution sur 20 ans ou 25 ans, mais c'est vrai qu'il y a une dégradation de ce qu'est le paysage audiovisuel par rapport à ce qu'était TF1 et encore TF1 10 ans avant la privatisation.
Et parce qu'il faut aussi dire une chose, c'est que Bouygues a réussi son coup. C'est-à-dire qu'il a fait TF1 la première chaîne d'Europe. Et avec le journal de Poivre de Jean-Pierre Pernaut et de Claire Chazal, des journaux extrêmement puissants, Antenne de France 2 se retrouve reléguée des fois avec 3 millions de téléspectateurs, 2 millions. Et donc ils vont commencer effectivement à faire du TF1 pour essayer, selon eux, de rectifier le tir et récupérer de l'audience.
Et d'ailleurs, ça vous le montrez à travers un personnage qui est très intéressant et on va terminer par là. Un autre personnage de journaliste, un prénommé David.
On va accueillir notre petit David comme il se doit.
Sois pas tout rouge, mon grand. Au premier portage pour un 13h ou un 20h, c'est champagne pour tout le monde.
Bienvenue, mon grand. Tu vas voir, quand on met un pied dans la télé, on n'en sort plus. Hein.
Ouais, attention, hein. Ne te laisse pas dévorer. David.
Oui.
Tu nous as encore dégainé un micro-trotte.
Oui, mais là, pour l'immobilier, ça s'y prêtait.
Je comprends pas que Luc te les laisse passer cette antique. Je suis un peu d'accord avec Sabine. Tu fais des micro-trottoirs pour tout et n'importe quoi.
Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi David est parmi nous ? Normalement, la prévision, ça concerne uniquement les chefs de service.
Oui, pardon, j'ai fait venir David parce que... tu voulais nous parler des antidépresseurs, c'est ça ? T'avais une idée que je trouvais pas mal. Oui.
Merci.
Sauge !
Oui ?
T'es devenu chef adjoint des gênés, alors. T'aurais pu me le dire ?
Désolé, je n'osais pas.
Et je dois t'appeler chef, alors ?
Mais non, ça changera rien.
Il faut chercher l'actualité du jour, pas celle de demain ou dans 6 mois. Du jour, allez. Laisse tomber ton monde, ouvre plutôt ça. Le Parisien. C'est là-dedans qu'il y a notre 20h. Les chiens écrasés. Ça a toujours été la honte du journalisme. Moi, je pense l'inverse. Par ces petites histoires du quotidien, si c'est bien fait, on peut raconter une société. T'es d'accord, Thibault ?
David !
Ah, salut, Clapote. Ça va ?
Francis Bouygues est mort. Ils vont l'annoncer ce soir.
Ah bon ? Merde.
Tu penses que ça va changer quelque chose pour le lancement d'LCI ?
Ah non, je pense pas, on est archi prêt.
C'est officiel alors, tu y vas?
Ouais.
Tu vas faire de la présentation?
Oui. Mais j'espère ne pas me couper du terrain.
Alors, non, ça, c'est très intéressant, parce que vous montrez bien l'ascension du personnage qui est au début de la pièce, ce tout petit en bout de table, on le voit là, c'est une image vraiment frappante. À la fin, il part faire de la présentation, donc il a un beau costume, une belle cravate, il part faire de la présentation sur LCI, la filiale de TF1. En même temps, professionnellement, il plaide toujours, on le voit plaider pour les sujets sur les antidépresseurs, il faut que le 20h soit le reflet du Parisien plutôt que du Monde, etc. J'imagine que ce que vous avez voulu montrer à travers lui, c'est l'ascension justement d'une certaine conception de l'information, plus grand public ou présumé plus grand public.
Ce qu'ils appellent l'information concernante, c'est-à-dire... être proche des gens, les soi-disant vraies préoccupations des Français. Donc c'est effectivement les maillots de bain avant l'été, c'est la rentrée des classes en septembre, voilà, parce que c'est des sujets qui, comme il dit souvent, comme je l'ai entendu beaucoup aussi, touchent les gens. Donc c'est cette information-là, soi-disant l'information de terrain qui...
Et qui était totalement absent des journaux avant la privatisation, ces sujets entre guillemets concernant.
Non, c'était pas totalement absent, mais c'est vrai que, et notamment dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut, on était ancré dans la vie quotidienne, dans les régions. Alors, il y a eu aussi une implantation de correspondants en région qui n'existait pas avant, donc qui fournit de la matière pour les rédactions. Mais ça a été en effet beaucoup plus présent après la privatisation de TF1 et notamment insufflé à travers le journal de 13h.
L'ascension des sujets concernant notamment dans le 13h de Pernaut, c'est professionnellement justifié ou c'est une concession à l'audience?
Je pense que ça correspond. Il y a eu deux choses. Je pense que Jean-Pierre ne pouvait pas enfiler le costume de Mourouzi parce que voilà, ils n'avaient pas la même conception des choses, c'était pas le même tempérament, et que la comparaison aurait été compliquée. Lui, je pense que ça correspond vraiment à ce qu'il est, à ce qu'il croit, non, et ce qu'il est sur le truc. Je pense que c'était une volonté aussi de la direction de TF1, en effet, d'aller vers du sujet concernant, etc.
Et vous en pensez quoi, personnellement?
Parce que justement, vous
êtes travaillé sur le service public.
C'est lié aussi à l'audience, hein, parce que très vite, les sujets culturels ont été bannis parce qu'on a vu que ça pouvait faire perdre de l'audience. Hein. Mais des sujets concernant, je pense qu'il faut en faire. Hein? Alors après, c'est un autre choix. Je veux dire, le journal de Jean-Pierre qui quand même avait du succès, on n'était pas vraiment dans un journal d'actualité. On était dans une émission magazine d'accompagnement du quotidien des gens.
Et c'est bien ou pas? De votre point de vue de journaliste aujourd'hui dans le service public?
Moi, je préfère... Alors, on voit d'ailleurs que les journaux de 13 heures... Sur la une continue là-dedans, mais la 2 aussi d'ailleurs. Hein.
C'est incroyable. Regardez le journal de 13h.
La 2 aujourd'hui, c'est un copier presque collé ce niveau-là.
Hein. Et vous diriez comme Laurent Mauduit, c'est effroyable?
Je ne dirais pas c'est effroyable, non. Je dirais...
Aucune information d'intérêt public.
Non, aucune. Mais voilà, en effet, je veux dire, c'est un déficit de l'information d'actualité.
C'est dit poliment, mais... c'est dit plus poliment.
Si on veut savoir ce qui se passe, en effet, c'est... Voilà. Alors, ce qui est moins vrai dans le 20h, on a quand même l'actualité. Mais bien sûr, je sais pas, c'est l'heure du repas, c'est ceci, cela. Enfin bon.
On veut pas que les gens zappent parce qu'après il y a la pub. Donc c'est pour ça qu'aussi on fait des fins de journée.
Voyez bien la porosité, mais la porosité va jusqu'au pire parce que vous voyez ce que fabrique CNews comme campagne de propagande pour un candidat d'extrême droite, et vous sentez bien que ça a des effets de porosité. LCI suit. Trottine derrière, de manière moins spectaculaire, mais embrasse quand même les mêmes thématiques. Et donc, je trouve qu'on est quand même dans une descente aux enfers qui ne s'est jamais interrompue.
Eh bien, sur cette conclusion optimiste, nous vous souhaitons, chers abonnés, de très joyeuses fêtes. Où est-ce qu'on pourra voir votre pièce début janvier? Alors, quelques dates?
C'est au Théâtre de la Ville, là, dans la salle des Abbesses.
À Paris.
À Paris, pardon, du 5 janvier au 22 janvier. Après, on est à Angoulême, Gap, tu as les dates ou pas?
La Roche-sur-Yon.
Mouveau, je ne sais pas voilà, exactement. Pas mais
c'est bien.
Ouais, Château. Ouais.
Et vraiment, une excellente pièce. Je la recommande tout à fait à ceux qui s'intéressent à la télé et même aux autres. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.